Fréquence protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord ?
D'accord.
Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final.
Bonjour à tous. Un extrait d'un film qui était sorti en 2006, La poursuite du bonheur, avec Will Smith, qui est un acteur américain très connu. Et voilà, c'est une scène où il est avec son fils qui voudrait devenir joueur de basket, qui apparemment n'est pas très bon en basket, et son père lui explique ce que doit être sa vie, comment il doit se déterminer, quelle doit être sa trajectoire. Et sa trajectoire, il n'y a que lui qui peut la déterminer par sa volonté. C'est comme ça que, dans le fond, par le fait qu'il le veut, qu'il va le réussir, et il dit à la fin de ce qu'on vient d'entendre, point final. C'est un film qui parle du bonheur. Alors, le bonheur en Amérique, on va en parler tout à l'heure, ça c'est une vieille thématique. Mais il y a un livre qui vient de sortir, qui est assez étrange finalement, qui peut choquer, qui est une dénonciation d'une certaine industrie du bonheur aux États-Unis, qui est une dénonciation de la certaine philosophie du bonheur, dans le fond, ce qu'elle appelle psychologie positive. Il s'appelle Happycracy, c'est paru au Premier Parallèle. Alors, c'est Eva Illouz, on va en parler, et c'est Edgar Cabanas. Alors, j'ai avec moi le traducteur, mais qui était aussi écrivain lui-même, et qui connaît bien les thèmes d'Eva Illouz, et notamment de Christopher Lage, dont on va parler tout au long de l'émission. Bonjour Frédéric Joly.
Bonjour.
Alors, vous êtes le traducteur. Alors, dire un mot peut-être quand même sur Eva Illouz, parce que qui est peut-être pas connue par tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui est une sociologue, c'est ça ?
C'est une sociologue,
oui.
qui enseigne à l'université hébraïque de Jérusalem,
oui.
Et qui est directrice d'études à l'école des hautes études. À Paris, et qui a notamment publié au Seuil en 2012 un très beau livre qui s'intitule « Pourquoi l'amour fait mal ».
Oui,
c'est donc une sociologue qui s'attache à montrer que le capitalisme joue un rôle essentiel dans le développement de la vie privée et des émotions. Et qui s'intéresse tout particulièrement aussi à la psychologie.
Et aux sentiments. Hein, les sentiments du capitaliste, c'est qu'elle pense qu'effectivement, on en reparlera d'ailleurs. Elle parle des gens dans le management de l'entreprise qui d'un seul coup s'intéressent à ce que pensent les gens, comment ils sont heureux, malheureux, etc.
Tout à fait.
Ah,
donc,
c'est ça.
Elle s'intéresse plus particulièrement au langage de la psychologie qui est devenu assez hégémonique. Ouais. Et elle se soucie de remplacer ce langage hégémonique de la psychologie par des schémas, disons, plus historiques et sociologiques. Mmh. Voilà.
Alors, ce livre, il peut surprendre parce que le sous-titre du livre, c'est « Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies » ou « Les marchands de bonheur », il est dit sur la quatrième de couverture. C'est pas un livre contre le bonheur. Déjà, on peut commencer par dire ça, parce que pour certains pourraient imaginer, dans le fond, c'est une agression comme ça.
Non,
c'est pas ça du tout.
Le livre n'est absolument pas dirigé contre le bonheur en lui-même. Il s'agit de montrer plutôt que le bonheur a cessé d'être une émotion.
Oui.
Pour devenir une sorte d'injonction de tous les instants.
Ouais.
Alors j'ajouterais que ce discours qui est hégémonique, oui, ne l'est pas seulement aux États-Unis.
Oui, alors ça.
C'est un discours qui désormais est présent dans le monde entier,
ouais,
aussi bien en Inde qu'en Russie ou en, ouais, Europe occidentale, et particulièrement en France, où il a notamment envahi le monde de l'entreprise.
Et dans toutes les structures, parce qu'elle parle aussi des universités.
Tout à fait.
Toutes les entreprises, universités, on parlera tout à l'heure, l'armée, puisqu'il y a des programmes de bonheur, concernant le bonheur dans l'armée américaine. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le raisonnement qu'elle tient. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à lire le livre, j'étais un petit peu étonné. Et après, elle explique très très bien. C'est-à-dire que aux États-Unis, dans le fond, j'évoquais Christopher Lage parce que j'étais, ouais, avec vous il y a quelques années pour parler d'un livre sur la famille.
Ouais.
Aux États-Unis, dans le fond, c'est très banal et très courant d'avoir des thérapeutes sociaux qui interviennent dans la vie des gens. En l'occurrence, le livre-là, c'était la famille, c'était le couple. Comment aimer dans son couple? C'est très banal. Il y a toujours une psychologie, une thérapie sociale qui s'intéressait à la vie des gens, beaucoup plus qu'en Europe. Là, ce qu'elle montre, c'est qu'à un moment donné, on est passé d'une certaine vision à une autre. C'est-à-dire d'une psychologie classique à une psychologie positive.
Il faut restituer cette histoire très, très brièvement. Je pense que il faut rappeler que la psychiatrie avant Freud ne s'intéressait qu'aux grands malades, oui. aux grands fous, oui. Dans l'enceinte de l'asile, que Freud a instauré une rupture très nette en imposant la catégorie du névrosé, mmh. et donc en montrant que des gens normaux pouvaient être hantés par des conflits internes, ouais. et a donc élargi considérablement le champ de la thérapie mentale. Mmh. Rappeler aussi qu'à l'après-guerre, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la psychologie humaniste a inventé une idée inédite, mmh. tout à fait neuve, l'idée que la plupart des vies sont au fond moins bien que ce qu'elles devraient être. Mmh. L'idée de la réalisation de soi-même. Mmh. Il est possible de se réaliser et de s'épanouir. Mmh. Une idée qui, dans les années 40-50, était tout à fait novatrice, qui est devenue banale aujourd'hui, mais qui était véritablement une révolution à l'époque. Une révolution et aussi une formidable aubaine pour le capitalisme, puisque la psychologie s'adressait désormais aux bien portants. Ouais. Il s'agissait désormais de maximiser son moi, sa personnalité, de la faire fructifier. Ouais. Comme un capital, exactement comme un capital.
Alors, ce qu'elle dit très très bien, c'est que cette psychologie restait encore, s'il y a basculement dans la psychologie dite positive, c'est parce que ça restait encore, ça m'a beaucoup frappé, marqué par du négatif, quoi, finalement. Il restait encore une partie de négativité qu'il fallait gommer, pour basculer dans du positif.
Gommer, ou disons, à laquelle il fallait se confronter.
Voilà,
c'est-à-dire que la souffrance existait. La souffrance était une réalité.
Alors que là,
La révolution, effectivement, que représente la psychologie positive, réside en partie dans cette manière de gommer toute souffrance et toute négativité. Pour ne plus se préoccuper que d'augmenter ses ressources psychiques. Ouais. La spécificité de la psychologie positive, c'est celle-là. Il n'y a plus que des émotions positives, il n'y a plus que des ressources positives. Ouais. Et surtout, c'est le bonheur qui en vient à expliquer la réussite dans tous les aspects de la vie.
Voilà. On en parlera tout à l'heure, notamment pour l'entreprise, parce qu'il y a un renversement. Alors,
le bonheur devient l'alpha et l'oméga.
Voilà, voilà. Alors Seligman, dont elle parle beaucoup, il y a un certain Seligman, dont elle parle beaucoup, on va en parler longuement, qui... Alors lui, il est un peu quand même... C'est assez amusant ce qu'elle dit, parce qu'il joue beaucoup sur le côté un peu, je dirais, un peu illuminé, mais pas mystique, mais dans le fond, il raconte qu'il a découvert la psychologie positive un jour avec sa petite fille. Moi, quand on raconte cette histoire, parce qu'elle est tout à fait charmante, il est avec sa petite fille, je sais pas, elle lance des feuilles mortes, je sais plus, ou de l'herbe, je sais plus, n'importe comment, et puis il râle, quoi. Et sa petite fille lui aurait dit, 5 ans, je crois, 6 ans, ou peut-être plus, papa, à une certaine époque, à un certain âge, il dit maintenant, je vais devenir positif, je vais arrêter de voir tout en noir, je vais arrêter de râler, tu devrais faire comme moi. Oui. Et Seligman dit, c'est là que tout a démarré. Alors bon, c'est une anecdote, bien sûr.
Il est friand d'anecdotes.
Oui, mais il en fait tout le temps, apparemment. Oui, mais c'est une anecdote, ça peut paraître un peu comme ça, très moralisateur, si j'ose dire. Mais c'est une anecdote, le point de départ, c'est, on peut si on veut.
La psychologie positive n'est pas moralisatrice, elle est surtout, je crois, normative. Oui. C'est-à-dire qu'elle impose beaucoup de normes à travers cette idée selon laquelle le bonheur dépend uniquement et strictement de l'individu.
Oui.
C'est le paradigme fondamental de la psychologie positive, c'est celui-là. Tout dépend de l'individu, toute considération extérieure, c'est-à-dire sociale ou politique, est littéralement gommée.
Oui.
Le bonheur est quelque chose d'atteignable et il pourra être atteint à la condition de faire preuve de la volonté nécessaire et à la condition aussi de faire appel à l'expertise.
Oui, c'est ça le paradoxe.
À l'expertise qui donnera les clés aidant à l'atteindre.
C'est le premier paradoxe, parce qu'on nous explique que ça dépend que de toi, et en même temps, il faut quand même des gens qui te prennent par la main et qui te montrent à partir de techniques, on va en parler, et de recettes, comment faire. Il a inventé, elle explique, une formule du bonheur. Il a une formule soi-disant scientifique du bonheur qui, moi, m'a quand même laissé complètement étonné, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, il explique, alors ça explique tout le reste. Oui. Il dit, voilà, il y a 50% c'est du génétique, alors je ne sais pas d'où il sort ça, mais enfin, voilà. 40% c'est en gros, on va dire ça nous-mêmes. Et puis 10% les circonstances. Et dans les circonstances, il met le statut social...
Le salaire,
voilà, tout ce qui est, dans le fond, on dirait social, quoi, sociétal, social, etc.
C'est ça.
Et il reste 40% qui sont les 40% sur lesquels on doit travailler. Hein,
c'est ça. C'est une manière de formaliser cette négation de tous les paramètres extérieurs.
Oui.
Votre niveau de vie, votre milieu social d'origine. Les difficultés professionnelles que vous pouvez éventuellement connaître, la qualité de votre logement, la qualité de l'éducation que vous avez suivie, tout cela, au fond, n'a aucune importance.
Ouais.
La seule chose qui compte aux yeux des adeptes de la psychologie positive, c'est votre capacité, votre opiniâtreté dans la quête de ce bonheur que vous devez impérativement atteindre.
Oui, c'est le père avec le fils qu'on vient d'entendre.
C'est ce que dit Will Smith dans le film.
Ouais.
Et c'est cette idée qui, depuis, je dirais, le début des années 2000, est devenue hégémonique d'abord aux États-Unis, qui effectivement est, je dirais, une société qui constitue un terreau assez fertile pour ce propos, mais qui s'est répandu dans le monde entier, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Mais comment ça s'explique? Parce qu'elle donne un espèce il y a un point de basculement pour elle, les années 2000, même la crise de 2008, elle dit avant ça existait, dans le fond, elle montre bien que ça a toujours existé, mais là, d'un seul coup, il y a un point de basculement. Est-ce que c'est parce que, dans le fond, d'un seul coup, il se constitue comme science? Parce que là, le livre est très virulent par moment, parce que ce qu'il faut dire... Là, on ne l'a pas encore dit, c'est ces gens-là se constituent comme des scientifiques. En fait, ils constituent une analyse, soi-disant d'après eux, scientifique.
Oui, tout à fait.
La formule du bonheur apparaît scientifique.
Les adeptes de la psychologie positive ont des prétentions scientifiques revendiquées. Et de fait, ils ont beaucoup travaillé à légitimer la discipline. Ils ont créé des centres de recherche, des cursus, des diplômes, des formations, de manière à ce que leur légitimité de praticien ne puisse pas être remise en cause. Mais je dirais que le succès de la psychologie positive s'explique par des facteurs assez divers. Je crois que ce qu'on pourrait dire d'abord, c'est que c'est un discours qui est absolument taillé sur mesure pour le marché. Qui s'inscrit dans une logique de marché de façon presque parfaite. Elle s'intéresse à tous ceux qui se sentent bien en leur vendant l'idée qu'ils pourraient se sentir mieux.
Oui, alors ça, oui.
Qu'ils devraient maximiser
toujours mieux.
Et elle cesse de se centrer sur la pathologie pour ne plus s'intéresser, je le répète, qu'à la maximisation du bonheur.
Ouais.
Et cette manière de nier la souffrance, je crois, entre fortement en résonance avec l'époque et son culte de la performativité et de la compétitivité.
Oui, c'est ça. Alors, puisque vous parlez du toujours mieux, il y a Don Draper dans Mad Men, le héros, le publicitaire. Elle cite en exergue d'un chapitre, Don Draper dit « La publicité est fondée sur une chose et une seule, le bonheur. » Il ajoute « Mais qu'est-ce que le bonheur ?» Et la réponse est assez stupéfiante. « Le bonheur, c'est ce moment qui précède celui où nous aurons besoin de plus de bonheur encore. » Voilà, tout est dit, je veux dire. D'ailleurs, le film est excellent, je le signale à tout le monde. Enfin, le film, la série, est excellente parce que vraiment, on voit fonctionner, à partir des schèmes dont on parle, une industrie publicitaire.
Tout à fait, oui.
Il faut savoir comment il explique ce que c'est que faire une affiche, etc. C'est extraordinaire.
Je pense que le succès de la psychologie positive, et d'ailleurs de la psychologie en général, réside aussi dans le rôle de guide qu'elle peut jouer.
Ouais.
C'est-à-dire que dans une société où les normes sociales tendent à s'estomper, elle vient dire à l'individu qu'il doit agir en fonction d'une normativité qui lui appartient en propre. C'est à l'individu de se créer ses propres normes. Surtout, c'est à l'individu de trouver en lui-même ses propres besoins, sa propre psyché, au fond, les lignes directrices de son comportement.
Alors, avant qu'on fasse une petite pause, est-ce que ce n'est pas complètement en écho avec, dans le fond, la modernité, tout simplement, dans le fond, le discours moderne, dans le fond, 17e, 18e, la révolution du 18e, dans le fond, c'est simplement... De dire maintenant, avant c'était, je sais pas, les églises, avant c'était la société, la communauté. Maintenant, c'est vous-même qui déterminez votre chemin. Enfin, c'est toutes les révolutions qui ont lieu. J'exagère un peu,
Non, mais je dirais plutôt que c'est la disparition de tout discours collectif et de toute norme collective qui vient faciliter ce type de discours. Oui. Ce sera désormais à l'individu de rechercher en lui-même ses propres lignes directrices de comportement.
Mais ça prend le pouvoir, si j'ose dire. Enfin, politiquement, ça prend quand même un peu le pouvoir, parce que les proclamations qui sont faites, c'est ça. Maintenant, c'est entre vos mains, d'une certaine manière.
Voilà.
C'est ça le problème. Hein, c'est ça. Non.
Disons que ça entre en résonance par ailleurs avec une configuration politique où la figure, les logiques étatiques tendent à s'affaiblir et où l'individualisation augmente toujours plus en force, oui, évidemment. Ouais.
Allez, une première pause, justement, ça s'appelle « Le temps entre nos mains ».
Thank you.
protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Alors, avec nous aujourd'hui, pour parler d'un livre de Edgar Cabanas et Eva Illouz, Apicratie, c'est les éditions Le Premier Parallèle. Frédéric Joly, qui est le traducteur aussi. Vous avez aussi, vous êtes écrivain, vous avez écrit un très beau livre, vous étiez avec moi, sur Robert Musil aussi.
Oui,
voilà, il y a deux ou trois ans. Donc, j'ai dit écrivain et traducteur. Un petit mot avant qu'on parle du travail de l'entreprise, parce que c'est quand même le fil rouge du livre, en grande partie, c'est sa thèse. À dire un mot quand même sur l'argent, parce qu'il y a des propos qu'elle attaque vivement, des psychologues positifs qui disent, dans le fond, voilà, quoi. D'ailleurs, s'appuyant, j'allais dire, sur des propos qu'on connaît tous, l'argent fait pas le bonheur. Alors, il s'appuie sur l'argent fait pas le bonheur pour dire, dans le fond, finalement, vous savez, alors, ils font des études sociologiques sur certains pays, ils sortent un certain nombre d'études assez étonnantes, et ils disent, dans le fond, finalement, le premier sujet, c'est pas la réduction des inégalités, finalement, parce qu'il y a des gens qui peuvent être très heureux pauvres, finalement. Alors, ça peut exister, je dis pas le contraire, hein, c'est pas, on est tous, voilà, bon. Mais, ils sont quand même d'un cynisme épouvantable par moment. Disons-le clairement.
En l'occurrence, il s'agit des économistes du bonheur.
Mais on a oublié de dire qu'ils faisaient.
Qui est une nouvelle discipline. Oui. L'économie du bonheur est une nouvelle discipline qui est apparue notamment en Grande-Bretagne, qui travaille en très étroite collaboration avec la psychologie positive.
Oui, c'est ça, il y a une alliance de fait.
Il y a une alliance de fait en raison d'intérêts convergents et de préoccupations similaires et d'objectifs communs. Les représentants de l'économie du bonheur prônant l'idée de remplacer la notion de produit intérieur brut par la notion de bonheur national brut.
Alors,
Pour les économistes du bonheur, le bonheur est non seulement un objectif, mais est aussi un indice de la prospérité nationale.
Le problème étant de savoir qu'est-ce qu'on appelle le bonheur en l'occurrence, parce c'est quand même le débat. Parce que bon,
D'où leur alliance avec la psychologie positive. Mais pour en revenir à...
Ceci étant dit, excusez-moi, c'est pas complètement idiot sur le fond, hein, parce que la croissance en elle-même, ne fait pas le bonheur. Enfin, je veux dire, la croissance. Non, mais le fait d'augmenter toute la journée de PIB.
La croissance ne fait. Sans doute pas le bonheur, mais elle témoigne quand même d'un niveau généralement de prospérité ou de non-prospérité qui en dit assez long sur l'état d'une société.
Et la redistribution surtout d'ailleurs. Oui, parce que c'est quand même le problème.
Et la redistribution.
Que le PIB, bon, c'est bien, mais s'il est mal redistribué, le bonheur collectif sera quand même assez faible. Voilà, bon.
Et pour en venir effectivement à ce que vous disiez sur leurs propos, sur l'argent qui témoigne d'un cynisme assez spectaculaire, ce cynisme-là, il témoigne du fait qu'il n'y a pas à leurs yeux de problème structurel. Qu'il n'y a aucun problème social ou politique de fond, mais seulement des déficiences psychologiques individuelles.
Voilà. Ça faut traiter l'individuel.
Les déficiences psychologiques individuelles peuvent être traitées et améliorées à la condition de disposer de l'expertise qui convienne.
Voilà, c'est ça. Alors là, c'est là qu'on trouve toutes les... On dira un mot tout à l'heure. C'est là qu'on trouve toutes les appuis qu'on peut donner à l'individu pour aller jusqu'au bout de ses ressources. Parce que c'est bien ça. Je dis, il y a des recettes, il y a même des applications maintenant. Il y en a une,
ça
s'appelle Appify, je ne sais plus.
C'est ça.
Qui est une application où on peut chaque matin cultiver son bonheur, si j'ose dire.
La psychologie positive est apparue comme discipline, et c'est une discipline qui a donné lieu à une industrie.
Ouais.
Et donc à une industrie proposant à une clientèle tous les produits possibles et imaginables. Et donc du coaching aux séances de thérapie, en passant par les applications pour téléphone mobile, la personne qui part en quête de son bonheur dispose aujourd'hui d'outils très nombreux pour y parvenir. On lui souhaite bon courage. Ce que montre très bien le livre, c'est le fossé assez spectaculaire qui peut se constater entre la simplicité de ces outils, leur caractère extrêmement rudimentaire, et l'ambition qu'ils se proposent.
Oui, elle, je dirais pas qu'elle hésite, parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus, mais elle fluctue un peu entre est-ce que c'est des bêtises ou du bon sens ou bon que tout le monde peut avoir. Moi, j'ai rien contre le bon sens. Nos vieilles grand-mères avaient un grand bon sens sur la question du bonheur. Hein. Il y a plein de formules de nos vieilles grand-mères qui disaient des choses très 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 bien. Alors elle dit ça, et puis après c'est la prétention scientifique, c'est ça le problème en fait. Parce que pour le reste, il y a en effet, bon, faut mieux se lever le matin en disant j'irai bien que me dire j'irai mal. Bon, ça c'est sûr, il n'y a pas besoin d'application. Voilà, mais il y a quand même, ce qu'elle dit, c'est quand même, il se part des atours de la scientificité.
Il se part
c'est ça le problème.
Il se part des atours de la scientificité et je ne crois pas effectivement qu'elle hésite dans la définition de ces différents produits. C'est-à-dire, ce sont des produits qui se très divers et qui font appel à ce qu'on peut appeler des ficelles très diverses qui peuvent relever du bon sens élémentaire.
Bah oui.
Et qui peuvent aussi relever à d'autres moments de l'imposture totale.
Oui, oui, il y a des exemples dans le livre. Ceux qui le liront verront. Il y a des choses. Il y a un certain nombre de PDG qui expliquent que d'un seul coup, ils sont restés chez eux, ils ont rêvé, enfin bon, etc. Alors, ça s'applique beaucoup dans le champ du travail. Ça, c'est le fil rouge du livre. C'est qu'elle montre, ça, c'est tout à fait passionnant, je dirais, fondamental. Comment on a basculé avec cette question du bonheur, dans le fond, c'est pas du tout la même chose qu'il y a 50 ans, notamment aux États-Unis. Elle explique, c'est ce qu'elle appelle la pyramide des besoins de Maslow, c'était, voilà, que d'abord, au départ, le bonheur, c'est quelque chose qui est à l'arrivée, en quelque sorte, c'est le point final d'une réussite, notamment sociale, professionnelle, ou autre, ou amoureuse, enfin, voilà, bon. Et puis, d'un seul coup, on renverse cette pyramide, dit-elle. C'est ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est le bonheur qui va faire notre réussite.
Voilà, c'est ça.
Alors ça, c'est un changement colossal de paradigme, comme on dit aujourd'hui.
C'est ça.
Hein?
C'est alors que la psychologie humaniste, par exemple, avait postulé que la vie épanouie était génératrice de bonheur, c'est aujourd'hui le contraire. C'est avec la psychologie positive, c'est le bonheur qui conditionne tout. Qui va conditionner la réussite professionnelle, une vie privée amoureuse épanouie, une vie relationnelle riche, etc. Les termes sont intégralement renversés, et donc le bonheur devient évidemment dans ces conditions un enjeu fondamental. Et pour répondre à votre question, je crois que si la psychologie positive rencontre un tel succès aujourd'hui au sein de l'entreprise, c'est parce qu'elle... son discours est absolument taillé sur mesure pour les besoins des grandes entreprises, parce qu'elle exalte la flexibilité, la capacité à être flexible, à passer d'un emploi à l'autre, l'aptitude à gérer, comme on dit aujourd'hui, l'incertitude sans trop d'anxiété, avoir toujours le bon côté des choses. Même un licenciement être considéré désormais comme une occasion de rebondir, comme on dit encore aujourd'hui.
La résilience.
Et comme une occasion de réinvention personnelle, au fond.
C'est-à-dire que ça correspond pour elle à un nouvel âge du capitalisme, alors qu'elle va appeler néolibéralisme, qui est celui où la notion de sécurité, parce que c'est ça qu'il dit, sur l'entreprise, il y avait la sécurité.
Oui.
Une certaine équilibre, on va dire, sécurité, il n'y en a jamais eu totalement jusqu'au bout.
Disons que le contrat de travail à l'époque garantissait
une certaine stabilité,
sécurité de la carrière.
Et on va dans l'incertitude dont vous parlez, et même, on n'y va pas seulement, on finit par l'exalter, parce que troisième époque, c'est qu'on va dire, c'est très bien, la flexibilité, l'incertitude.
Une incertitude qui concerne d'ailleurs tout le monde, hein, qui ne concerne pas seulement les échelons les plus bas de l'entreprise, qui concerne tout autant les cadres supérieurs et les hiérarchies les plus élevées de l'entreprise.
Elle va être créatrice, c'est ça le problème, c'est qu'elle est créatrice. Et vous parliez de rebond, on va dire à quelqu'un qui est dans une situation épouvantable, ça peut être une occasion. Là, dans un film qui s'appelle Observer, dont elle parle, il y a un certain Ryan qui discute avec un certain Bob, qui vient d'être licencié. Et d'un seul coup, il y a une femme qui est avec lui, qui n'arrive pas à, en quelque sorte, endiguer la colère et le pessimisme du nommé Bob. Et là, il y a un certain Ryan qui est d'un cynisme absolu. Je ne peux pas le lire, mais il dit, voilà, mais dis donc, dit Ryan à Bob, voilà ce qu'il lui dit. Mais tu sais cuisiner, t'as un CV qui dit que tu as suivi un cours de gastronomie française, Ton rêve était de cuisiner, ton rêve, on le retrouve. Et pourtant, tu as décidé de ne pas suivre ton rêve. Au lieu de cela, tu as choisi une entreprise, tu gagnes combien, etc. Et si tu te consacrais enfin à ce qui te rend heureux ? Alors l'autre dit, oui, c'est peut-être pas une bonne question, mais Ryan dit, c'est extraordinaire, mais une occasion se présente, Bob, c'est une renaissance. Donc le type vient d'être licencié, passez-moi l'expression, il se demande comment il va faire ses fins de mois, et la personne qui est chargée de ça, d'accompagner les licenciements, c'est son métier. Il est très heureux dans ce métier, d'ailleurs, comme le montre le film. Et lui, mais t'as pas compris, mon petit gars. Pour toi, c'est une renaissance. Renaissance, c'est très fort. Et oui. En Amérique, où il y a quelque chose de religieux, quand même, encore un peu, même, renaissance, c'est énorme.
Mais c'est un discours qui s'avère extrêmement précieux aujourd'hui, et pas seulement, encore une fois, aux États-Unis, ouais. Puisque dans une société où la précarité est grandissante, où la sécurité du travail est de moins en moins au rendez-vous, ouais. Il devient extrêmement... important d'avoir recours à ce type de discours.
Oui, qui est quand même énorme, je veux dire, il faut que...
Ah ben oui.
Je sais pas dans le film ce qui se passe, je me souviens plus, mais bon, il y a peut-être des gens qui se diraient, on a envie de... voilà, on a envie d'être un peu violent avec lui, parce que c'est quand même énorme. Elle cite un deuxième cas, avant qu'on fasse une deuxième pause, c'est les états post-traumatiques. C'est absolument... je dois dire, quand j'ai lu ça, j'étais absolument sidéré, parce que, on a connu des attentats en France, etc., des choses absolument épouvantables, et elle dit... Dans certains cas d'état post-traumatique, dans le fond, là, ça peut être un moment aussi.
Enfin, c'est un discours qui partage énormément avec le discours de la résilience.
On peut rebondir dans avec un trauma, quoi. Enfin, comme on dit aujourd'hui, c'est assez.
C'est un discours qui partage énormément avec la résilience, telle que l'a popularisée, par exemple, Boris Cyrulnik.
Oui, en France.
C'est cette idée qu'il est possible, en s'appuyant sur les déboires ou même sur les drames de l'existence, de renforcer, de consolider et d'améliorer son moi, son individualité.
Mais dans n'importe quelle circonstance. C'est ça le problème. Enfin, j'exagère un peu, mais là...
Quasiment. Non, voilà, effectivement. C'est ça. Quasiment. C'est même les drames les plus grandes tragédies de la vie peuvent être et doivent être surmontées. Oui. Et tout cela au nom de l'amélioration du moi. Ça, c'est quelque chose
donc,
de tout
si
à fait essentiel.
Donc si je réussis pas, c'est de ma faute. Parce que j'exagère un peu.
Non, mais c'est tout à fait ça.
Mais dans le fond, je retourne contre moi-même, finalement, cette incapacité.
Dans la mesure où le fait d'atteindre le bonheur ne repose que sur l'individu, l'échec de l'individu à atteindre ce bonheur est évidemment stigmatisé. C'est-à-dire que l'individu sera jugé le seul et unique responsable de cet échec. Donc c'est un discours qui est aussi d'une rare perversité, parce qu'il est terriblement culpabilisant et stigmatisant.
Oui, ce qui fait que, entre parenthèses, ça peut amener à des états de dépression, hein, finalement, paradoxalement. Le paradoxe, c'est un nouveau paradoxe qu'elle note très bien plusieurs fois.
Bien sûr, tout à fait.
C'est que le paradoxe, l'amélioration de soi peut se terminer par un délabrement de soi, parce que, d'abord, l'échec est à peu près normal pour tout le monde, d'une certaine manière.
Bien sûr.
Donc là, c'est quand même le zéro échec, et... Donc, quelque part, ça pose un problème de stigmatisation. Alors,
d'autant que tous les signes de bonheur et de contentement deviennent des indices d'une psyché en bon ordre de marche.
Oui.
Et il se produit donc une sorte d'équivalence entre bonheur et statut social.
Oui. Ça, c'est très intéressant,
Et c'est une telle logique est totalement renforcée par les nouvelles configurations du monde du travail, qui est un monde en réseau, un monde de coopération. Et dans un monde de réseau et de coopération, la positivité est bien évidemment une condition désormais quasi obligatoire.
Avec, on va terminer là-dessus dans la deuxième pause, le regard des autres, parce que ce que vous dites très bien. Il y a un jeu, je ne sais plus lequel, comment il s'appelait, à la télévision, où il y avait, je crois, c'est le maillon faible, je ne m'en souviens plus comment il s'appelait, et avec une dame qui, d'un seul coup, expédiait dans la mort, vous êtes le maillon faible, et la personne était vouée à la mort sociale, d'une certaine façon, en tout cas à la télé, bien entendu, mais vous êtes le maillon faible, ce qui veut dire que, dans le fond, dans une entreprise, la personne qui ne se prend pas en charge est le maillon faible.
Absolument.
Et que le regard de ses copains, si j'ose dire, ses collègues, peut, dans le fond, la mettre à mort, j'allais dire, socialement.
Oui, la personne incapable de positivité est devenue le maillon faible de l'entreprise.
Donc, elle doit être éliminée. Il ne faut pas de maillon faible. J'exagère, hein. Voilà, allez, une deuxième petite pause. Corps et âme.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Alors, avec nous aujourd'hui, Frédéric Joly pour le livre de Edgar Cabanas et Eva Illouz, Apicratie. On aime bien ces formules-là aujourd'hui. C'est quoi ? C'est le pouvoir du bonheur, Apicratie ? C'est le...
La tyrannie du bonheur.
La tyrannie du bonheur, voilà. Quoique Crataille. Enfin, on peut discuter, voilà. Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies ? Les éditions, c'est premier parallèle. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il y a un chapitre qui s'appelle Ego à vendre. Mmh. Qui, je trouve, que est tout à fait extraordinairement intéressant, où là, elle montre que, j'allais dire, d'une certaine façon, la trajectoire ultime de cette philosophie, c'est de faire de nous, en tout cas de ceux qui le veulent, voilà, et qui sombrent un peu là-dedans, des marques eux-mêmes, de se vendre, dans le fond, moi, ce que j'appellerais, dans mon langage en moi, de devenir des hommes marchés, sur le marché du bonheur, d'une certaine façon, où elle montre très bien qu'il y a ça s'appelle le personal branding, c'est-à-dire que dans le fond, les gens vont vendre ce qu'ils sont sur ce marché-là pour se réaliser, mais aussi pour gagner de l'argent. Quoi. Elle prend l'exemple des youtubeurs, un très bon exemple, effectivement. On voit bien que beaucoup de jeunes sont complètement fascinés par ce type ou cette femme qui est dans sa cuisine, d'un seul coup, raconte ses histoires, et puis qui gagne de l'argent. Parce que le problème, c'est que ça rapporte, évidemment.
Le bonheur est une fonction et une ressource personnelle et individuelle qu'il s'agit de maximiser.
Voilà.
Et donc, la capacité à maximiser son bonheur est une forme de distinction sociale, au fond.
Ouais. Ouais.
Une manière de se distinguer, de montrer sa supériorité.
Une nouvelle réussite, quoi,
par rapport à autrui.
Voilà.
C'est une nouvelle
réussite.
C'est une nouvelle réussite.
Ouais.
Et Eva Illouz et Edgar Cabanas présentent l'individu qui parvient à une telle réussite comme un citoyen.
Oui, le citoyen, j'ai adoré. Un citoyen, oui. Ce qui dit tout, oui, effectivement.
Le citoyen n'entretient plus vraiment de véritable relation à sa société.
Oui.
Il ne connaît plus aucun grand récit collectif. Le citoyen est un sujet isolé qui a un projet uniquement personnel et uniquement psychique à réaliser, la quête de son moi authentique.
Oui.
La recherche de ce que les psychologues positifs appellent aux États-Unis le best possible self, le BPS.
Alors, en français, on va dire.
Le meilleur moi possible.
Le meilleur moi possible, voilà.
Le meilleur moi possible, c'est-à-dire la véritable, l'unique authenticité.
Moi, c'est quand même référé, vous dites authenticité, on n'a pas le temps, puis c'est pas un livre de philosophie, mais enfin. C'est ce qu'elle dit très bien à un moment donné. Et l'authenticité, à un moment donné, ça a été porté par des gens, des existentialistes, etc. Elle dit, là, on est quand même bas de gamme, si j'ose dire. L'authenticité, ça, le moi authentique, ça consiste aussi, par exemple, à montrer sur les réseaux, regardez, moi, ce que j'ai pu faire. Parce que c'est quand même aussi très... Bon, ça revient, on est loin de, je sais pas, la recherche authentique d'un moi dans une philosophie de la tragédie de la vie. Enfin, c'est pas quand même la même chose.
C'est exact.
C'est quand même bon.
C'est exact. Mais je crois qu'il s'agit aussi de se fixer, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ses propres lignes directrices.
Oui.
C'est-à-dire, en l'absence de normes sociales, il s'agit de, en se fixant ses propres objectifs, de se fixer ses propres lignes directrices, dont on fait d'une certaine manière des synonymes d'authenticité.
Oui.
Sera authentique la personne qui se montre capable d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés à la manière qu'elle a choisie. Sur le mode qu'elle a choisi. Il y a aussi cette idée-là.
Évidemment, nous, on aurait dit avant, ça ne prouve rien, sauf que elle est peut-être bonne, elle a eu de la chance, elle a de l'entre-jeu, enfin, on dirait, elle est dans une bonne société. Vous voyez ce qu'on dirait avant, maintenant, on dit non, c'est lui.
Et très exactement.
C'est ça qui est extraordinaire. C'est un renversement extraordinaire. Voilà. Alors, il dit que ça marque beaucoup dans son livre « Pourquoi l'amour, ça fait mal ?». C'était l'amour, notamment dans la jeunesse américaine, les universités, notamment, il n'y avait pas que ça. Et là, c'est extraordinaire parce qu'elle montre comment ça est au cœur du secteur universitaire américain. Et à un moment donné, c'est cité dans le livre, c'est pas elle, c'est un auteur. Et c'est un lycéen ou un étudiant, je viens publier, qui dit « De toute façon, il faut paraître heureux ».
C'est l'impératif de paraître heureux, de paraître. L'apparence, soit je suis heureux. Oui. Donc je suis.
Oui. Enfin, oui. Ça, je crois que l'Europe occidentale, pour l'instant, n'y a pas encore droit.
Oui,
mais
oui, voilà.
Aux États-Unis, c'est le phénomène a atteint de telles proportions qu'on assiste à ce type de,
oui.
d'obsession. C'est-à-dire la quête de la positivité, là, devient absolument obsessionnelle.
Ouais. Ceci étant dit, on est un système libéral, capitaliste. Si j'ose dire, il y a dans un certain livre un ministère du bonheur. Hein. C'est dans 1984, c'est pas un système libéral, capitaliste. Il y a un ministère du bonheur. Là, pour l'instant, les Américains font pas de ministère du bonheur, mais ils font des programmes... Pour les écoles, les universités, vous dites très bien, dans tous les pays, en Angleterre, dans les lycées, il y a des programmes du bonheur. Et c'est extraordinaire. Enfin,
vous,
bon.
Par contre, s'il n'y a pas encore de ministère du bonheur aux États-Unis, il y en a déjà dans certains pays, par exemple,
oui.
Au Moyen-Orient,
ah bon
dans certains,
ah oui, je crois qu'elle
dans
le
certains
dit,
Émirats. Certains Émirats disposent désormais de ministres du bonheur.
De ministres du bonheur.
Donc, vous, oui. On voit bien que cette idéologie s'est étendue à l'ensemble de la planète.
Et en même temps, d'ailleurs, je crois que c'est Theresa May qui a créé un secrétaire d'État à la solitude, c'est pas ça ?
C'est
ou quelque
ça.
Chose comme ça. Oui, ou un ministre, je ne sais plus.
Alors,
c'est quand même extraordinaire aussi.
Il y a une commission oui, qui a été créée pour tenter de répondre au phénomène de l'isolement social.
Oui.
Et qui, effectivement, dans sa manière de procéder, s'appuie énormément sur les travaux des économistes du bonheur.
Oui, mais c'est le chien qui se mord la queue, parce que nous devons chacun réaliser nous-mêmes. On découvre que tout le monde ne fait pas, qu'ils sont solitaires, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont malheureux. Et à ce moment-là, on fait une politique pour les rendre encore plus heureux. Enfin, on ne s'arrête jamais, quoi.
Ouais, c'est
ça le problème, enfin,
C'est aussi la raison, c'est ce qui explique aussi pourquoi le bonheur est devenu une marchandise absolument,
voilà,
absolument
voilà.
idéale.
Voilà. Alors, on s'approche de la fin de l'émission, hélas. Le livre montre bien, alors c'est quand même aussi sans fil directeur, c'est pas un livre politique, je dirais, il faut pas non plus raconter trop d'histoires, mais on voit bien qu'il y a une critique d'un certain état de choses politiques, idéologiques, philosophiques, on dirait même, et que dans le fond, peut-être une des... façon de riposter cette idéologie, ça serait de... Alors, je ne vais pas dire remettre du collectif, parce que je pense que malheureusement, c'est pas vraiment à l'ordre du jour, mais remettre peut-être du lien, on dit du lien social, c'est une formule que je trouve assez floue là aussi, remettre un peu quelque chose qui est au-delà des individualités, parce que là, ce qu'elle nous présente, c'est un monde de monade.
Hein. Ah, totalement.
Autosuffisante.
Bien sûr.
Hein, voilà,
oui,
hein, c'est
tout
ça.
À fait.
Et une société atomisée.
Totalement.
Voilà. Ouais. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, d'une certaine façon pour aller contre ça.
Ça, c'est...
Oui, bon, voilà, d'accord.
C'est un vaste sujet.
Oui, je sais bien.
C'est un vaste sujet, mais une manière de tenter de répondre, et comme toujours, et c'est là où Eva Illouz s'inscrit vraiment dans la tradition de ce qu'on appelle l'école de Francfort.
Voilà.
Qui est un courant de pensée...
La critique sociale.
Qui s'attache vraiment à circonscrire les pathologies sociales générées par la modernité. Une manière de répondre à la question que vous posez, pour la théorie critique, pour l'école de Francfort, a toujours consisté à analyser au plus près ces pathologies sociales.
Voilà.
Et je crois que c'est une manière à la fois... modeste et réaliste de poser les premières pierres d'une tentative de réponse.
Ah ouais.
Je crois que pour répondre à une pathologie, il faut d'abord la circonscrire et la comprendre au plus près.
C'est ça, c'est ce que fait le livre.
Et,
hein, voilà.
Et je crois que le livre est, je crois, important et singulier, d'abord parce qu'il est écrit par une sociologue et par un psychologue, parce qu'on a peu parlé jusqu'à présent de Edgar Cabanas, mais je pourrais en profiter pour dire deux mots d'Edgar Cabanas, qui est un très jeune psychologue qui a une trentaine d'années. Oui. Je crois que c'est cette manière d'articuler la sociologie et la psychologie qui donne au livre sa profondeur. Ouais. C'est-à-dire que Eva Illouz est convaincue que la psychologie et la sociologie ne peuvent pas travailler désormais séparées l'une de l'autre.
Ouais.
Elles doivent travailler ensemble parce que les logiques de pouvoir choisissent désormais pour théâtre la psyché, l'intériorité de l'individu.
Voilà.
Et voilà, je crois que c'est ce qui leur permet de montrer, c'est ce qui leur permet de radiographier ce sujet. ce sujet censé être parfaitement heureux, ce citoyen.
Voilà. Alors, il nous reste malheureusement 4 minutes, on va dire, Éric Joly. Va y avoir une suite, enfin, une suite, pas tout à fait une suite. Il y a un bouquin qui va sortir. Vous êtes en train de le traduire, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Qui s'appelle Les marchandises émotionnelles.
Voilà.
Vous me disiez tout à l'heure, c'est pas forcément complètement la suite. Mais enfin, c'est un peu la suite aussi en même temps. Voilà.
C'est une forme de prolongement et surtout d'approfondissement des thématiques abordées dans Apicratie. Puisque, évidemment, le bonheur, comme on a pu le dire tout au long de cette émission, est devenu une marchandise, une marchandise émotionnelle. Ouais. Il était une émotion, il est désormais ce que Eva Illouz appelle une emoditi. C'est un terme qu'elle a forgé à partir des deux termes emotion et commodité, c'est-à-dire émotion et marchandise. Oui. Le bonheur est devenu une marchandise émotionnelle. Et Eva Illouz s'intéresse à toutes les marchandises émotionnelles que l'on peut désormais constater dans nos sociétés. Et l'ouvrage en question, donc, qui va paraître effectivement chez Premier Parallèle au mois de janvier 2019, donne un tableau d'ensemble très très large de ces marchandises émotionnelles qui font notre quotidien et qui contribuent aussi à modifier la psyché de l'individu contemporain.
Oui, c'est ça. Et alors, sans qu'on voit pour l'instant, enfin, on a un peu tourné autour de ça, mais on a bien du mal à voir, j'allais dire, dans le... Comment on peut appeler ça? Le rapport de force philosophique, intellectuel. On a bien du mal à voir ce qui pourrait être mis en avant. Hein. C'est ça qu'on a... On a beaucoup de mal. On a de mal, parce qu'on lit ça, on se dit, c'est remarquable, c'est passionnant, et en même temps, chaque jour qui vient, si j'ose dire, comme vous dites très très bien, montre qu'il y a une nouvelle marchandise émotionnelle.
Mais je crois que celui qui part en quête de son bonheur se retrouve forcément à un moment ou à un autre face à son incomplétude fondamentale, existentielle.
Oui.
Et c'est, je crois, ce moment de face à face qui devrait le conduire à s'interroger sur la plus ou moins grande artificialité de tout ce qui lui est proposé aujourd'hui.
Mais est-ce que ce n'est pas très dangereux pour certaines personnes qui pensent pouvoir se réaliser comme ça? Parce que là, on peut terminer là-dessus. On voit bien que pour certaines personnes, alors on aurait dit avant, des gens qui sont mal à l'aise, etc., avec les pratiques, les techniques, les concepts, mais est-ce que ce n'est pas quand même assez dangereux de pousser chacun à s'interroger presque trop loin? Il faut le faire, bien sûr.
Ça peut être d'une dangerosité extrême avec les personnalités les plus fragiles.
Oui, c'est ça. C'est ça le problème.
C'est indéniable.
D'où, je crois,
l'importance de ce livre, qui est le premier, à mon sens, à tirer la sonnette d'alarme avec, je dirais, une telle solidité de façon aussi articulée sur le plan théorique.
Ouais. Et puis se dégager surtout peut-être de ces marchands d'émotions.
Bien évidemment,
c'est quand même bien ça.
Et bien évidemment, s'en dégager.
Parce que ça s'appelle les marchands de bonheur ou l'industrie du bonheur. Voilà. L'école de Francfort parlait d'industrie culturelle. Hein. Voilà, c'est exactement. Merci Frédéric Joly d'avoir été
merci à vous
avec nous. Je recommande ce livre, bien sûr. C'est un livre tout à fait intéressant. Edgar Cabanas, Eva Illouz, Apicratie, Premier Parallèle, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. On espère pas complètement encore. Merci, à très bientôt sur notre antenne.